Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, toujours un plaisir de vous retrouver. Et cette semaine, nous allons entrer tranquillement dans cette période de l'Avent, une période qui prépare à Noël. Qu'est-ce que l'Avent? Comment on peut vivre l'Avent aujourd'hui? Et nous avons un excellent invité, Vincent Pinchot, qui a justement écrit un carnet de retraite avant et Noël 2025, mais aussi intervenant dans un CHSLD, un intervenant spirituel. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, exactement. Intervenant en soins spirituels. Donc, un drôle d'intitulé pour une drôle de réalité, on s'entend.
Alors, ben merci de prendre soin de nous aussi aujourd'hui en étant avec nous pour cette émission de questions d'aujourd'hui. Vincent, c'est une joie de se rencontrer. On se connaît un peu par le truchement des ondes, mais c'est vraiment la première fois qu'on se rencontre et on se rencontre dans un très beau lieu et dans votre région, qui est la Mauricie.
Ah, ben merci d'être venu. C'est un petit détour, mais ma bibliothèque, bien qu'on dirait que j'y vis en ermite, eh bien, elle est accueillante à sa manière.
Vincent, d'abord, quelques mots sur votre engagement, justement, comme intervenant en soins spirituels et comme auteur.
Eh bien, les deux sont liés d'une certaine manière. Comme intervenant en soins spirituels, pour clarifier cette drôle de bibitte, c'est que je travaille, j'accompagne des gens en perte d'autonomie face à des maladies graves et le plus souvent aussi en soins palliatifs. Je les accompagne dans ce qui peut donner sens à leur vie lorsque leur vie, justement, semble perdre un peu de son sens et on ne sait pas encore pourquoi est-ce qu'on voudrait continuer. Puis, cette quête de sens-là m'habite, c'est-à-dire que j'accompagne des gens, mais je me laisse accompagner par eux également. Et à travers de ma plume, c'est cette expérience de vie intérieure-là aussi que j'essaie de traduire de différentes manières. Dans ce carnet de l'Avent-là, dans mon livre aussi que j'ai publié plus tôt cette année, et dans toutes sortes d'occasions qui me sont données, là, dans des chroniques et autres. Et donc, c'est vraiment une manière, quelque part, de donner... l'écriture, c'est une manière de donner... mettre sur papier la voix de ces gens-là qui me nourrissent vraiment de leur réflexion, de leur expérience de vie.
Vincent Pinchot, vous êtes en train de nous dire que votre contact presque régulier, en tout cas assez régulier, presque journalier, avec des gens qui sont en perte d'autonomie, qui sont dans une situation de fragilité, ça nourrit votre vie spirituelle.
Absolument, absolument. Et moi, pour moi, avant, une vie intellectuelle, c'était quelque chose qui était vraiment l'activité de la raison. Mais là, je découvre des gens qui sont atteints de toutes sortes de troubles neurocognitifs. Le plus gros de notre clientèle en CHSLD est atteint d'Alzheimer ou d'autres maladies similaires. Et donc, en apprivoisant la vulnérabilité, je redécouvre ce pan-là de notre humanité. Puis c'est là que, quelque part, je vois la racine de ma spiritualité. La spiritualité, pour moi, ce n'est que cela, essayer de vivre, de donner sens à notre vulnérabilité. Celle des gens que j'accompagne, mais celle qui est la mienne également, celle que le Christ également va endosser par l'incarnation le jour où il va naître dans une étable.
Eh bien, vous ouvrez la porte avec la grande thématique de notre rencontre aujourd'hui. Vincent Pinchot, l'Avent, bien, ça nous est hérité de l'Église qui a pensé qu'on devait se préparer à célébrer la venue du Christ. Alors, pouvez-vous nous situer cette période de l'Avent dans la tradition de l'Église?
Bien, nous ici, on voit poindre l'hiver à l'horizon, donc on a nos saisons d'ordre météorologique, disons, mais dans l'Église, il y a ce qu'on appelle plutôt des temps liturgiques. Et ici, donc, on parle du temps de l'Avent, qui est un temps de préparation. À quoi? Eh bien, à ce jour, pourrait-on dire, le plus sombre de l'année, c'est-à-dire on voit les journées qui raccourcissent jusqu'au moment où arrive cette lumière qu'est le Christ en nos vies. À partir de ce moment-là, les journées vont recommencer à s'allonger et la lumière, l'espoir va renaître quelque part. Il y a un dicton qui dit que la nuit est toujours la plus obscure juste avant l'aurore. Eh bien, c'est ce qu'on vit à travers l'Avent, à travers cette obscurité que l'on peut vivre aussi intérieurement. On apprend à discerner qu'est-ce qui est une vraie lumière et qu'est-ce qui peut vraiment nous éclairer sur le chemin de la vie. On peut dire que l'Avent, c'est une manière de faire état, faire mémoire du passé, c'est-à-dire faire état de tous les événements qui ont mené à la naissance de Jésus, qui ont préfiguré sa naissance. L'Avent, c'est aussi un moment qui se situe dans le présent, puisqu'on parle de la présence de Jésus lorsqu'il est né dans une étable le soir de Noël, mais on parle aussi de sa présence aujourd'hui dans l'Église, puisque l'Église étant le corps du Christ, on en est tous membres. Pas des membres de chez Costco, mais il y a des membres de l'Église, chacun la main, le pied, la bouche de ce grand corps. Et en même temps, l'Avent nous projette dans l'avenir. On l'oublie, mais les lectures de l'Avent, par exemple du premier dimanche, c'est des lectures d'ordre eschatologique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, un gros mot à 100 piastres, qui, on pourrait dire, qui ont trait à la fin du monde, c'est-à-dire au retour de Jésus, son avènement non plus dans la vulnérabilité, comme je le disais, mais bien dans ce cas-là, dans sa puissance et sa gloire. Là, on voit des visions un peu apocalyptiques, un peu effrayantes, mais toujours porteuses d'espoir, et l'Avent, quelque part, on peut pas en faire l'économie, nous tourne vers ça.
Vincent Pinchot, vous êtes en train de nous dire que nous commençons cette période de l'Avent qui dure 4 semaines en se souvenant du Christ glorieux.
Absolument.
Oui. Et pourquoi?
Eh bien, on aurait peut-être tendance à opposer justement la vulnérabilité du Christ qui naît, qui prend chair dans le corps d'un enfant, à justement sa gloire, c'est-à-dire l'éclat de sa puissance, l'éclat de sa lumière et tout. Moi, je vois pas nécessairement d'opposition entre les deux. C'est-à-dire, il faut vraiment considérer que ce temps de l'Avent qui nous prépare et qui nous invite aussi à prendre soin des plus faibles de la société, c'est une manière de considérer que la solidarité, c'est quelque chose qui nous rend plus forts et l'Avent doit être un temps de solidarité.
Alors, comment on peut vivre l'Avent en 2025? Est-ce que vous avez quelques conseils? Est-ce qu'il y a des défis aussi? Parce que vous parlez en même temps de cette lumière qui est moins présente, des journées qui raccourcissent, et on sait que c'est une période aussi qui est peut-être plus difficile pour certaines personnes. Alors, est-ce que vous avez des conseils à nous donner?
Bien, le défi, le mot défi, je trouve intéressant. Le défi étant de faire la part des choses entre, disons, tout ce qu'on surajoute à l'Avent, c'est-à-dire la course au cadeau de Noël, à partir du Boxing Day, qui correspond souvent au début du temps de l'Avent et tout ça. Ah, pas le Boxing Day, je veux dire le Vendredi fou.
Et qui est même précédé de pré-Vendredi fou maintenant.
Oui, exactement, on n'en finit plus. Et bon, toute la course aux tourtières et aux décorations de Noël, le défi étant de séparer ça de vraiment l'attente. On oublie que le temps de l'Avent, c'est un temps, on pourrait dire, de pénitence. La couleur du temps liturgique de l'Avent, c'est le violet au même titre que le carême. La pénitence, c'est pas quelque chose de rabat-joie. C'est vraiment au contraire de discerner c'est quoi qui est une véritable joie dans le temps de l'Avent. Et d'écarter finalement ce qui est des faux-semblants de tout ça. Donc, un travail à faire sur soi, comment le faire, comment vivre l'Avent en 2025 de deux manières. Dans toute chose qu'on vit, il y a l'action et la contemplation, il y a Marthe et Marie. Et donc, prier l'Avent tout d'abord, et c'est ce que je propose dans ce carnet, notamment en se basant sur les évangiles du jour, de chaque jour. Et aussi, eh bien, le vivre dans l'action, c'est-à-dire pas seulement en décorant le sapin, mais bien également peut-être en cherchant les petites lumières, les décorations qu'il pourrait y avoir parmi les hommes. C'est-à-dire, on devrait pas seulement être à la course au petit lutin, mais bien voir c'est qui nous côtoie en tant qu'être humain.
Vous êtes intervenant, Vincent Pinchot, en soins spirituels. Comment vous vivez l'Avent avec ces personnes qui sont dans une situation de fragilité, de vulnérabilité, qui ont peut-être pas beaucoup de visites à Noël ou au jour de l'an? On sait un peu comment ça se passe avec des employés qui donnent tout leur temps, qui veulent vraiment faire le maximum, avec des gens qui peuvent peut-être ne même pas savoir que c'est Noël.
C'est intéressant parce que la grande thématique de l'Avent, c'est l'espérance, alors que je côtoie des gens qui sont en fin de vie, alors on se demande, mais qu'est-ce qu'il leur reste encore à espérer? Donc, vivre ça, certainement que j'essaie d'animer leur quotidien du mieux que je peux, c'est une chose, justement, en les accompagnant dans le temps liturgique par des célébrations religieuses, des ateliers de réflexion, mais, comme je le dis, c'est eux surtout qui nourrissent chez moi une notion peut-être plus profonde, plus nuancée de ce qu'est l'espérance, qui n'est pas seulement une attente en se disant ça va mieux aller, mais bien de se dire que même quand tout va mal, la vie vaut encore la peine d'être vécue.
Vincent Pinchot, vous êtes aussi auteur et vous avez écrit le carnet de retraite pour le quotidien, au quotidien, avant et Noël 2025 chez Novalis. Qu'attendons-nous? D'abord, j'aimerais m'adresser à l'auteur en vous. Comment on se prépare à écrire un carnet? Vous ne l'avez pas écrit la veille de l'avant, ça c'est sûr. Comment vous faites pour plonger à l'intérieur de vous pour dire, ben voilà, c'est ce que je vais offrir aux gens qui voudraient méditer, réfléchir sur l'avant, se préparer?
Eh bien, la question est bonne puisque j'ai écrit ce carnet-là, je ne me rappelle plus exactement où, je crois que c'était peu de temps après Pâques, selon l'exigence de la maison d'édition, et on venait de sortir donc du temps des fêtes et tout ça. Donc, comment se mettre dans l'esprit du temps des fêtes, dans le temps de l'avant qu'on associe donc aux décorations et tout ça? Pour moi, ça a été de me recentrer sur les textes bibliques qui sont offerts pour chaque jour de l'Avent, qui sont propres à l'Avent et regroupés autour de certains thèmes. On peut dire que les textes bibliques du temps d'Avent sortent de l'ordinaire, puisqu'on parle souvent dans les temps liturgiques du temps ordinaire, où les lectures de la messe se suivent suivant l'ordre de l'Évangile lui-même, alors que là, on essaie vraiment de regrouper ça autour de thèmes qui sont souvent ceux de l'attente, de l'espérance, de la joie. Donc vraiment à partir des textes eux-mêmes, et de voir finalement dans les textes bibliques, dans les textes des évangiles surtout, une sorte de miroir de nos tumultes intérieurs, mais sans non plus évacuer, et ça parfois ça n'a pas été facile, même mon éditeur me l'a fait remarquer, sans évacuer la joie. Parfois j'essayais de prendre un ton un peu, ou bien malgré moi plutôt, je prenais un ton qui était parfois un peu pénitent justement, curieusement, un peu convertissez-vous et croyez à l'Évangile, mais j'avais de la difficulté à saisir qu'il y avait une joie au bout de tout ça. Et puis le troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie, le dimanche Gaudete, comme on dit en latin. Et donc, c'était vraiment pour moi le plus difficile de retrouver cette joie-là que l'on trouvait, qu'on l'on cherche du moins dans le temps d'Avent, oui.
À question d'aujourd'hui, au micro Renaud Grégoire, nous recevons Vincent Pinchot, qui est intervenant en soins spirituels et aussi auteur du carnet de retraite de l'Avent et de Noël 2025, qu'attendons-nous, publié chez Novalis. J'aurais le goût de vous demander, Vincent Pinchot, quels sont les textes que vous avez trouvés les plus percutants cette année? Parce que ce que je comprends, c'est que vous avez bien sûr écrit des méditations à partir des évangiles qui sont présentés tout au long de l'Avent, donc des 4 semaines, mais pas arrivé que selon le contexte où on est, avec tout ce qui bouge dans le monde, on peut être plutôt happé par certains textes. Alors, quels sont ceux qui vous ont plus touché dans votre écriture?
L'éditeur me demandait que ce carnet-là soit quelque chose avec un ton assez intime, justement. Oui, faire référence à ce qui se passe à l'extérieur, mais en même temps tel que l'on le ressent, disons tous les tumultes du monde extérieur, tous les guerres et rumeurs de guerre, disons-le comme ça, mais à travers le filtre finalement de notre vie intérieure. Et donc il y a un petit caractère, je dirais, intime dans ces textes-là, et je le retrouve notamment dans le texte du premier dimanche de l'Avent. Selon moi, c'était quelque chose, et on fait référence à des gens qui lorsque le Seigneur viendra, il va venir nous prendre quelque part et nous amener comme dans l'Arche de Noé. On fait référence là à l'Arche de Noé. Et on dirait qu'on est dans un monde avec tout ce qui se passe où on cherche justement un endroit sécuritaire et on se dit, le Titanic coule, on va tous y passer, mais là, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? À quoi se rattacher quelque part? À quelle bouée s'accrocher dans la mer? C'est un texte qui, moi, m'avait inspiré, donc le premier dimanche de l'Avent, le premier dimanche de l'année liturgique. Après, les autres textes qui m'ont peut-être le plus marqué, curieusement, c'était ceux avec lesquels je me suis débattu et que même l'éditeur me renvoyait en me disant « Non, Vincent, ça marche pas, c'est pas dans le ton du temps des fêtes et tout. » Ceux qui ont trait, notamment à Jean le Baptiste. Des textes de Jean le Baptiste, on voit Jean le Baptiste comme étant le précurseur du Christ, et là on parle justement de ce qui précède sa venue. Donc Jean le Baptiste est vraiment à l'honneur dans le temps de l'Avent. sauf qu'on fait parfois référence à son arrestation, à sa mort, au doute que Jean-Baptiste avait lorsqu'il envoyait ses disciples demander à Jésus « Est-ce que c'est toi qu'on attend ou c'est un autre ?» Et quelque part, l'idée du doute, j'en parle dans le temps de l'Avent. Et on n'associe pas nécessairement le temps de l'Avent à un temps de questionnement, à savoir « Est-ce que Dieu existe ? Est-ce que Dieu n'existe pas ?» Et qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Mais à travers les textes qui ont trait à Jean-Baptiste, je m'y retrouvais quelque part, même si ça a été parfois les plus difficiles à méditer, même si parfois j'ai dû me prendre par deux fois, eh bien c'est eux, au final, qui me parlent le plus. Ouais.
D'ailleurs, le titre du carnet, c'est « Qu'attendons-nous ? » Pourquoi ce titre?
Mais il y a un double sens, puis lorsque le titre m'est un peu tombé sur la tête, un peu par hasard, je trouvais ça plutôt drôle. Le double sens étant que « Qu'attendons-nous ? » C'est à la fois de se dire, bon, est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel? Est-ce qu'il y a quelque chose à espérer dans ce monde qui, parfois, lorsqu'on regarde vers l'avenir, nous fait peur? Et comme je l'ai dit, l'attente, l'espérance, c'est la grande thématique de l'Avent. Mais attendons-nous, c'est aussi un cri de ralliement. Qu'attendons-nous, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend? Il faut y aller, il faut se dépêcher. Autrement dit, arrêtons de perdre notre temps. Parce que l'attente, qui est celle de l'Avent, n'est pas passer le temps. Et encore moins l'expression qui, moi, me sidère, tuer le temps, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. L'attente qui est celle de l'Avent, au contraire, c'est cultiver un désir de Dieu. Et ça passe pas par, comme je dis, être dans une salle d'attente et lire ce carnet-là comme un magazine qui est chez le dentiste depuis une vingtaine d'années. Non, c'est vraiment pour nous aider à savourer ce temps qui nous est donné comme un cadeau. On pourrait dire même un cadeau avant Noël.
Vincent Pinchot, vous avez parlé de Jean-Baptiste, Jean-le-Baptiste. On entre dans l'Avent 2025, dans ce qu'on appelle l'année A, donc l'année qui met plus en évidence ou qui utilise plus l'évangile de Matthieu, qui est peut-être un évangile qui est peut-être les plus utilisés, les plus connus aussi, de manière générale, c'est un évangile dont on fait beaucoup référence. Donc, vous avez parlé de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui arrivent dans les récits, qu'on appelle les récits d'enfance, les récits de nativité, hein, donc de cette période jusqu'à la manifestation de Jésus et son baptême? Alors, est-ce qu'il y a des personnages qui vous ont plus marqué ou que vous mettez plus en évidence dans votre carnet de retraite de l'Avent?
Ben, on peut pas ne pas parler, par exemple, de la Vierge Marie, ça va de soi. Et curieusement, j'ai trouvé, dans les textes que j'ai explorés, le pendant de Marie qui était Zacharie. Et ça, je m'y attendais pas. C'est-à-dire, Marie, bon, on la connaît pour son fiat, c'est-à-dire lorsqu'elle a dit oui à l'ange, et elle a dit que tout m'advienne selon ta parole. Bon, mais en même temps, Marie... Ça, c'est le côté, comme je le nomme, qui est Marie qui dit oui et qui est peut-être une posture un peu passive qui passe drôlement aujourd'hui lorsqu'on veut parler de féminité, de dire être femme, ce n'est pas nécessairement dire oui à tout. Au contraire, on trouve aussi Marie dans le temps de l'Avent, dans son Magnificat. Tout là, on dirait que ce chant-là veut tout chambouler. C'est le chant où Marie dit le Seigneur va renverser les puissants de leur trône, élever les humbles, et tout ça. Donc, un chant révolutionnaire, on pourrait dire. Et de l'autre côté, il y a ce cantique de Marie. Un autre cantique associé au temps de l'Avent, c'est le cantique de Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste aussi. Et le cantique de Zacharie, qui est comme un bilan du passé d'Israël, pour dire voilà où ce qu'on en est aujourd'hui, et aujourd'hui, on a une promesse de liberté en la personne de Jésus qui vient. Ces deux chants-là, le Magnificat, le Benedictus, le chant de Zacharie, le chant de Marie, eh bien, c'est par ailleurs, lorsqu'on fait la liturgie des heures, le bréviaire, vraiment les deux pendants, les deux grands jalons, les deux grands cantiques qui rythment la journée. Donc, on les retrouve dans le temps de l'Avent, et donc, ça m'a permis de me reconnecter quelque part le temps de l'Avent avec toutes ces figures-là et faire des liens que je trouvais un peu, que j'aurais pas fait autrement.
Mais sans Pinchot, Joseph. Joseph est particulièrement mis en évidence dans les récits d'enfance, de nativité, dans l'évangile de Matthieu. Comment regarder Joseph avec des yeux neufs aujourd'hui?
J'adore Joseph parce que c'est un grand rêveur. Et un homme, bon, on sait, là, c'est un peu... on dit souvent un homme de peu de mots parce que jamais Joseph ne parle dans l'Évangile selon saint Matthieu. Il y arrive plein de choses et finalement c'est Dieu qui lui parle à travers des songes, quand je suis un grand rêveur. Et en méditant sur la figure de Joseph, je me dis, bon, il y aurait peut-être moyen à notre époque de réhabiliter l'idée du rêve. Le rêve qui n'est pas une fumisterie, le rêve qui n'est pas quelque chose de vaporeux. Lorsqu'on dit à quelqu'un, par exemple, « Hey, tu rêves en couleur », c'est-à-dire « tu radotes mon homme ». Mais là, non, au contraire, le rêve, c'est une manière de percevoir des choses que les sens ne pourraient pas nous livrer. Une manière d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être pas pour y percevoir la réalité, mais y percevoir le principe par lequel on s'oriente dans la réalité. Joseph, par les songes, il voyait pas ce qui allait arriver, mais les songes lui disaient qu'est-ce qu'il devait faire, qu'est-ce qui devait, lui, l'animer dans l'inconnu quelque part. Donc, un songe, c'est pas quelque chose de prémonitoire, c'est peut-être, justement, se laisser emporter par une espérance, par un désir qu'on aurait de la difficulté à nommer, et se laisser motiver quelque part par cette espérance-là. Et ça, aujourd'hui, on en a besoin. Des gens qui sont prêts à rêver, non pas de banalité, rêver non pas de choses intangibles et des choses qui n'arriveront pas, des gens qui sont prêts à rêver, c'est-à-dire de vivre leurs rêves. Comme un enfant, on leur dit « suis tes rêves », eh bien, Joseph nous dit « peut-être que c'est ce qu'on devrait faire en tant qu'humanité ».
Vincent Pinchot, lorsqu'on parle de Noël, lorsqu'on se rappelle justement ces récits, hein, la venue de Jésus, le contexte dans lequel il vient, lorsqu'on se souvient que Marie et Joseph quittent Nazareth, vont à Bethléem, qui sont pas reçus, qui doivent se trouver un endroit, c'est une nuit assez noire, mais il y a une lumière qui arrive, et cette lumière, elle illumine sans doute les plus exclus des exclus à cette époque-là, les bergers, parce qu'on a une image peut-être un peu poétique des bergers, mais ce sont des gens exclus à ce moment-là. Qu'est-ce que on peut redécouvrir de ce récit de la nuit de Noël?
L'essentiel de la nuit de Noël étant, selon moi, ce qui nous distingue en tant que chrétiens. C'est-à-dire, de tout temps et en tout lieu, des gens ont cru en un Dieu qui était un ou des dieux qui étaient au ciel et tout plein, je dirais, qui se complaisent dans leur toute-puissance. Tandis que là, la nuit de Noël, ça nous parle d'un Dieu qui s'est fait, de tout grand, s'est fait le tout petit, finalement. Et que le Tout-Puissant prenne part à notre fragilité, que celui dont on pourrait dire que tout l'univers n'est pas assez grand pour contenir sa gloire se fasse tout petit pour tenir dans une étable. Ça, pour moi, c'est le sens de la nuit de Noël. Et après, se demander, comme toutes les figures qui apparaissent, parler des bergers, on peut parler, parce que je me rends quand même jusqu'à l'Épiphanie, donc aussi jusqu'au roi mage, comment est-ce qu'on accueille ce mystère-là? Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la nuit de Noël, c'est, oui, l'acte par lequel Dieu s'est fait homme, dans lequel, quelque part, par amour pour nous, il a décidé de prendre part à nos joies, à nos souffrances, mais nous, comment est-ce qu'on l'a reçu? Est-ce qu'on se dit que dans notre vie, il n'y a pas de place pour lui, comme il est dit dans l'évangile de Luc, qu'il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph dans la salle commune? On les renvoie donc un peu à l'écart et à la marge. Est-ce que la seule place que l'on laisse à Dieu dans notre vie, c'est un peu à l'écart, à la marge, dans l'étable, ou est-ce qu'on est prêt à lui donner une place centrale? Est-ce que justement on est prêt, nous aussi, à faire ce pèlerinage, à aller le rejoindre là où il est, et y croire, comme les bergers eux-mêmes ont accepté d'y croire et sont allés le rejoindre là où il était, là où il lui avait donné rendez-vous? Moi, personnellement, si on me dit « Hey, allez dans une étable là-bas, ça se peut que je passe mon chemin puis que je continue », eh bien, peut-être que parfois, la foi, c'est ça aussi. Quelqu'un nous donne rendez-vous et on attend de voir qu'est-ce qu'on est prêt à faire avec ce rendez-vous-là.
Vincent Pinchot, intervenant en soins spirituels et auteur du carnet de retraite au quotidien avant Noël 2025, sous le titre « Qu'attendons-nous ?», publié chez Novalis. C'est un extrêmement plaisir de vous avoir écouté, de vous avoir interrogé aussi, et je vous souhaite un très beau temps de Noël.
Pareillement et à tous les auditeurs.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci à vous qui êtes à l'écoute de l'émission Questions d'aujourd'hui. Au micro, Renaud Grégoire. Je vous dis à bientôt.